Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux parents qui empruntent des itinéraires bis pour le devenir. Alors aujourd'hui nous sommes entre deux saisons, entre la saison 1 qui s'est terminée il y a quelques semaines et la saison 2 qui commence en septembre. Et j'ai décidé donc de profiter de cet été pour vous proposer divers hors-série. Le hors-série d'aujourd'hui, nous continuons donc le bilan. Et donc j'ai eu la chance de me réentretenir avec mes invités de la saison 1 pour savoir justement ce qu'elle devenait. Vous m'écrivez souvent sur Instagram, entre autres, mais pas que, pour me demander des nouvelles. Comment se sont passés les traitements? Est-ce que, par exemple, Julie a accouché? Qu'est-ce qu'il en est du lancement du blog d'Émilie? Voilà, donc c'est l'occasion de faire un petit point. Aujourd'hui, donc, je vais vous représenter Julie, maman de Léo et Loan, qui est née en plein confinement. Émilie, maman de Ambre et Maxine, maman solo qui avait fait son parcours de PMA en Espagne. Et Olivia, maman de Gabriel, née d'un parcours d'insémination et de FIV entre la Belgique et l'Espagne. Je suis très heureuse de prendre de leurs nouvelles. J'espère que vous apprécierez ce petit tour d'horizon. C'est parti, bonne écoute. Hello Julie, comment ça va ?
Hello, ça va très bien et toi ?
Ça va super. Julie, c'est rigolo parce que je crois que tu fais partie des patronymes qu'on a eu le plus sur le podcast. Je crois qu'on a eu au moins 3 Julie sur le podcast. Donc, rappelle-nous, Julie, d'où viens-tu en France ?
Quelle Julie ? Alors, Julie qui vient de Normandie, proche Paris, mais Normandie quand même.
Ouais.
Et super. 32 ans, j'hésite, mais oui, j'ai 32 ans, je vais sur mes 33, et je suis maman de 2 petits garçons, de Léo qui, on en avait parlé la dernière fois, nous a quittés malheureusement en 2018, et ouais. De Loan qui est née il y a un mois et une semaine.
Donc là, voilà. T'es en plein dedans, donc tu étais l'épisode ouais. 7, ok, d'accord. Alors donc effectivement, Loan, donc ton deuxième petit garçon, n'était oui. pas encore né la dernière fois qu'on
non.
s'est parlé. Génial, alors
ouais.
raconte-nous un petit peu comment tout ça s'est passé, il est arrivé à quel terme, qu'est-ce qui s'est passé, raconte un peu.
Alors il est arrivé avec 10 jours d'avance pendant le confinement, donc à 2 jours du déconfinement, donc il s'est déconfiné un peu plus tôt. je te cache pas que moi j'attendais un peu le déconfinement parce que je me suis dit comme ça il y aura pas de problème avec la présence de Charles parce que la présence des papas ouais. voilà était pas certaine. Mmh. Bon, bah, monsieur a décidé de venir plus tôt, donc on est en plein dedans.
Du coup, t'as été toute seule ?
Alors, j'ai été toute seule au début, parce que j'ai eu une fissure de la poche des os. Donc, je suis rentrée le vendredi matin, le 9 mai, à la maternité. Donc, Charles n'a pas pu venir, donc on s'est quitté sur le parking, donc comme dans les films. Après, je suis rentrée, j'ai pleuré
dur.
Dans ma chambre. Enfin, voilà, la totale. Mmh. Ouais. Franchement, c'était dur, parce qu'en plus, je savais pas pour combien de temps...
ouais,
entre
ça peut être hyper long.
Et 48 heures, voilà, après il déclenche, mais il déclenche sans forcément le papa. Donc je savais pas trop combien de temps j'allais rester toute seule. Et en fait, même si je savais que c'était pour du positif, pour avoir mon fils en finalité, etc., bah j'étais un peu que bloquée sur le fait qu'il y avait pas Charles et que ça allait avec toutes les émotions aussi liées par rapport à Léo, etc. J'appréhendais beaucoup d'être toute seule. Donc j'ai pleuré un bon coup. En expliquant à mon fils pourquoi je pleurais, pourquoi j'étais dans une chambre, pourquoi je regardais des millions d'épisodes de Grey's Anatomy, parce qu'il fallait bien faire passer le temps. Et donc en fait, ça s'est déclenché dans la nuit, donc je suis restée une journée et la moitié d'une nuit toute seule. Donc ça allait par rapport à ce que je pouvais imaginer au début. Mm-hmm. Et en fait, Charles, il est arrivé qu'après la pause de la péridurale. Donc effectivement, pas cool d'avoir toute la contraction intense toute seule.
Ouais.
Mais en même temps, j'étais dans une super clinique avec une super équipe, donc j'étais loin d'être toute seule, même s'il n'y avait pas Charles. Et au final, bah, comme c'était un deuxième, généralement ça va plus vite, donc c'est quand même allé plus vite que pour Léo. Donc j'ai pu quasiment finir Grey's Anatomy, donc c'est génial. Et donc après, Charles est arrivé, il est resté donc avec nous pendant pendant la naissance, bien sûr. Ça s'est très très bien passé, en mode vraiment cocooning avec la sage-femme, l'auxiliaire de puériculture. Donc Loane est arrivé sans souci, plutôt rapidement. On a pu mettre de la musique, enfin tu vois, vraiment c'était super. Et Charles après a pu rester avec nous parce que c'était une incertitude aussi. Pendant un moment, on disait qu'en France, les papas partaient au bout de 2 heures, et ça n'a pas été le cas. Heureusement pour nous, je sais que pour plein de mamans ça a été le cas malheureusement, mais pour nous non. Et il a même pu dormir 2 nuits avec nous, donc vraiment royal quoi.
Ah, super, d'accord. Ouais. Royal. T'es quand même vachement positif parce que t'as eu une partie du parcours un peu toute seule, mais d'accord. T'as senti en fait que le personnel hospitalier ou de la clinique justement avait une attention un petit peu particulière du fait du confinement, du fait que tu sois toute seule. T'as senti qu'ils avaient passé un petit peu plus de temps avec toi?
Vraiment, j'avais l'impression d'être dans un cocon parce que il y avait du monde. Si j'avais besoin de parler, si j'avais des questions, même des fois sans même rien demander. Le personnel venait, en plus, comme Charles n'était pas tout prêt, il lui fallait compter à peu près 1 heure pour qu'il puisse venir à la maternité. Donc, elles ont pris ça en compte, les deux, la sage-femme et l'auxiliaire qui étaient avec moi. Donc, résultat, elles m'ont autorisé à l'appeler un peu plus tôt que prévu, mais pour être sûre qu'il soit là en temps et en heure. Et quand il est arrivé, tout était prêt. Il était annoncé à l'accueil, il a été accueilli comme il se doit, et donc il est arrivé largement dans les temps. J'ai vraiment eu l'impression qu'on était écoutés. On a beaucoup aussi parlé de Léo, donc c'était vraiment des conditions particulières, certes, mais avec une équipe au top, donc ça s'est très bien passé.
Ok. Et est-ce que tu sais un peu, enfin j'imagine que vous en avez peut-être un petit peu parlé avec Charles, ton mari, comment est-ce que lui, il a vécu justement le fait d'être un peu mis sur le côté, quoi?
Oui, effectivement. Il était triste aussi qu'on se quitte. Mais Charles, lui, il est très, très, très positif et pas spécialement stressé de nature. Donc, lui, il voyait vraiment la finalité, le fait qu'on allait se retrouver. Il était positif. Jamais il m'a dit qu'on allait être séparés ou quoi que ce soit au moment où Loane allait naître, bien sûr. Donc, lui, il est vraiment resté positif et il a bien fait parce qu'au final, on s'est retrouvés plus rapidement que je l'aurais pensé. Moi, c'est vrai que quand on s'est quitté sur le parking, je me voyais, enfin voilà, coucher toute seule et le revoir 48 heures après, enfin... J'étais vraiment dans l'émotion et je le savais que ça allait être beaucoup d'émotions par rapport au confinement, par rapport à un accouchement tout simplement. C'est beaucoup d'émotions quand même un accouchement. Et puis par rapport aussi à Léo et se remémorer tout ça. Donc moi c'est vrai que sur le parking j'en menais pas très large. Et heureusement, comme d'hab, que je l'ai parce que voilà, il m'a motivée. On partait à l'inconnu, mais l'inconnu peut apporter du négatif comme du positif.
C'est sûr. Alors, ce petit Loane,
oui,
c'est donc il a donc un grand frère. D'où vient son prénom?
Alors, ce qui est super rigolo, c'est qu'on a trouvé le prénom sans vraiment chercher ce que ça voulait dire, d'où ça venait, etc. On s'est renseigné après. C'est un prénom, si je me trompe pas, celte, et qu'il y en a beaucoup en Bretagne, ce que j'ai découvert après. Nous, en fait, pour la petite histoire, c'est qu'on avait entendu à la télé le prénom Logan, qu'on aimait moins à cause du G, et on s'est dit, avec un H, ça peut être sympa. Et on s'est dit aussi, ah super, on a inventé un prénom, on est trop fort, et après on a découvert qu'il existait déjà. Donc on s'est un peu planté sur pas mal de choses, mais au final, voilà, c'est un prénom qu'on aime beaucoup, juste par rapport à sa prononciation et à son écriture.
Comme ils disent en anglais, there is a flow, il y a une vibe,
c'est ça, ouais,
dans la prononciation du prénom. Et, d'accord.
Et puis aussi, parce qu'on voulait garder un L aussi, parce que pour la petite histoire, au-delà donc bien sûr de Léo, donc de son grand frère, qui a un prénom qui commence par un L, mon neveu et mes nièces ont également des prénoms qui commencent par un L. Donc à la base, c'était pas spécialement voulu, parce que mon grand frère, voilà, a choisi le premier prénom en tout premier de la fratrie. Et puis mon frère a suivi avec ma belle-sœur, bien sûr, sans forcément continuer les L, mais parce qu'un prénom avec un L leur plaisait. Et nous, effectivement, on a un peu continué la suite logique du L. Et mon papa aussi, qui s'appelle Louis. Ah, elle, donc voilà, on tient au L.
Excellent, excellent. Ça me rappelle un livre, donc évidemment j'ai le titre qui m'échappe complètement, où en fait tous les hommes de la famille ont un nom composé avec le nom Édouard dedans. Alors t'as Charles-Édouard, Jean-Édouard, Pierre-Édouard, machin. Et enfin bref, ouais. Et c'est toute une tradition en fait dans la famille dont ils sont très fiers, ça me rappelle.
Exactement.
Et alors ce petit Loane, j'imagine que tu lui parles aussi de son grand frère?
Oui, bien sûr. Alors il en a entendu parler tout au long de la grossesse. Parce que déjà, je parle beaucoup in utero, je fais partie des gens qui pensent que c'est primordial, voilà, de parler à son enfant, même quand on est enceinte et que le bébé est pas encore dans nos bras. Donc, je lui ai raconté déjà pas mal de choses et j'avais commencé à lui lire mon livre, en fait. Ce que je m'étais dit, ça pouvait être une belle manière aussi de lui raconter l'histoire de Léo. Et bon, il arrivait un peu plus tôt, donc j'ai pas eu le temps de finir mon livre, mais je le finirai. Et donc oui, on lui parle depuis qu'il est né également de son grand frère. Alors pas non plus tout le temps. Hein. Quand on a envie, quand l'émotion est là, ou pas forcément, quand il y a des choses qui nous font penser à Léo, et de lui expliquer comme on explique plein de choses à un enfant. Et puis parce que pour nous, bah, la fratrie, c'est hyper important. Et même si Léo est plus là, bah, il est quand même là partout avec nous. Et ça sera le cas aussi pour son petit frère. Donc ça nous tient à cœur de parler de Léo et de le mentionner quand on peut.
Super, d'accord. On discutait justement lors de ton épisode, donc il y a quelques mois déjà, c'est fou comme ça passe vite, ton livre justement que tu mentionnes, donc le livre dont tu as lu une grande partie déjà à Loane. Qu'est-ce qu'il en est du coup de l'aventure de ce livre? Donc pour rappel, pour ceux qui n'ont pas encore découvert cet épisode, toi et Charles, ton mari, vous faites un énorme travail de prévention sur les manières de coucher de manière sécuritaire les enfants, les bébés notamment, okay, mais ouais. Pas que, pour voilà, respecter les grandes règles de sécurité et que bébé donc aille le mieux possible. Tu as fait énormément d'interviews, tu fais énormément de prévention, tu écris beaucoup sur ton blog à ce sujet. Où est-ce que ça en est, tout ce projet-là? Et puis tu étais aussi en reconversion professionnelle, mais avec un bébé, oui. J'imagine qu'il y a des petites choses aussi que tu es obligée de mettre en pause. T'en es où alors?
Alors par rapport au livre, c'est vrai qu'il est sorti en février, donc le mois de mars, la pandémie et donc le confinement sont vite arrivés. Donc j'ai eu la chance quand même de pouvoir faire effectivement pas mal d'interviews, que ça soit en vidéo ou en papier.
J'ai pu faire deux interviews vidéo qui sont sur Internet, une pour auféminin.com et une pour Femme Actuelle qui est principalement consacrée à la prévention de la mort inattendue du nourrisson et des règles sécuritaires de couchage.
Mais ça s'est un peu mis, même un peu beaucoup, en pause avec le confinement parce que tout était arrêté. Donc normalement ça devrait reprendre, mais ça m'a quand même donné l'occasion de parler du livre, mais aussi beaucoup de prévention. J'espère vraiment voilà que ça va repartir et qu'on va pouvoir continuer à en parler et notamment la prévention qui nous tient évidemment tant à cœur. Et par rapport à ma reconversion, alors c'était un peu compliqué effectivement par rapport à la grossesse. Et aussi par rapport à la formation en elle-même. Bon, je passe les détails, mais j'ai dû un peu renoncer à ma deuxième formation. J'en ai fait déjà une. Et donc, en fait, je réfléchis très, très fortement à plutôt passer le concours pour être auxiliaire de puériculture. C'est vrai que j'hésitais un peu entre l'accompagnement périnatal et l'accompagnement des bébés. Bon, dans les deux cas, il y a des bébés et des mamans. Donc, il y a pas mal de choses qui se recoupent aussi. Et je me laisse le temps de m'occuper de Loane. Donc on a décidé avec Charles que je reportais un peu tout ça à peu près d'un an pour vraiment être sûre de moi, des formations et puis de m'occuper de bébé, ce qui est aussi une chose merveilleuse. Voilà, je me laisse le temps.
T'as bien raison. C'est une belle manière de procéder. Faut se donner le temps.
Oui, je pense que je suis un peu de nature à vouloir faire mille choses en même temps. Et là, effectivement, j'ai réalisé que c'est pas mal aussi de se laisser le temps. Et c'est vrai que bon, on hésite entre deux formations, qu'on peut pas faire les deux. Et en fait, plus la grossesse avançait, plus j'ai réalisé aussi que je voulais quand même être proche des bébés, je voulais quand même pouvoir allier la prévention et donc être quand même plus proche des bébés. Donc voilà, il y a tout ça qui chemine dans ma tête et je pense que m'occuper de mon bébé à moi en réfléchissant à tout ça, ça va être plutôt pas mal.
Oh, c'est clair, ça doit t'ouvrir encore de nouvelles perspectives, des trucs que t'as même pas soupçonné, je suis sûre.
Ouais, exactement, c'est exactement ça.
Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, à part donc du coup cette suite professionnelle?
Que je trouve vraiment, même si, enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui me plaisent, mais que j'arrive à choisir la formation, même si j'ai quand même une idée dans ma tête de comment tout ça va se finir. Mais bon, j'ai pas envie de trop m'avancer vu qu'il reste plusieurs mois devant moi pour pouvoir mettre ça en place. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est d'allier les bébés, les parents et la prévention. Enfin, c'est vraiment, j'aimerais vraiment trouver un truc qui tourne autour de tout ça, ouais. Parce que le rôle de maman déjà pour Léo et bien sûr avec l'arrivée de Loane me donne vraiment envie de m'occuper des bébés. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'adore, essayer de les comprendre, les accompagner, être avec eux, communiquer avec eux, même si on peut dire qu'on peut pas forcément communiquer avec un bébé, mais si. Et pour moi, je trouve que c'est passionnant. Accompagner les parents, parce que c'est une merveilleuse chose et c'est pas toujours simple. Comme on a déjà pu dire, il peut se passer 1000 choses pendant une grossesse, 1000 choses pendant les premiers mois de vie d'un bébé. Et puis, voilà, toujours la prévention. J'aimerais vraiment allier tout ça avec la prévention, que ça soit un peu la finalité de tout ce que je fais, de tout ce qu'on fait avec Charles depuis le décès de Léo. Même si c'est concret, que ça devienne un peu plus, et si ça peut être mon quotidien professionnel, franchement, j'en serais ravie.
D'accord, mais écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis, alors, faudra que tu reviennes nous raconter, du coup, comment est-ce que tu fais tout ça,
c'est ça.
Et comment est-ce que tu mènes tous ces projets de front.
Un petit teasing.
Voilà, on fera ça à la fin de la saison 2. Super.
Ouais, avec grand plaisir.
Bon, et alors, petite question subsidiaire avant de nous dire au revoir, une question que je pose à tous mes invités. Est-ce que, avec le recul donc de quelques mois, l'épisode 26 vient de sortir, tu étais l'épisode 7, on le disait tout à l'heure, est-ce qu'avec ce recul, tu pourrais me dire qu'est-ce que cette participation au podcast t'a apporté et finalement, pourquoi est-ce que tu avais décidé d'y participer ?
Alors, le podcast contribue à la libération de la parole par rapport à Léo, notamment ce qui lui arrivait malheureusement, et la libération de la parole aussi sur des sujets tabous comme la prévention de la mort inattendue du nourrisson. Et un jour, je veux et je souhaite que ça soit plus tabou, qu'on puisse parler de ces sujets certes sensibles, mais en parler librement parce que c'est important, et notamment aussi le sujet de la PMA, parce que Léo est arrivé grâce à la PMA, et que énormément de couples et de personnes passent par la PMA, et c'est un moyen comme un autre d'avoir un enfant, pas évident certes, mais un moyen comme un autre qui nous permet de devenir parents.
Écoute Julie, je te dis un très grand merci d'avoir pris le temps de venir nous donner des nouvelles. Ça a l'air de rouler.
Alors merci,
je suis
toi,
super super contente pour toi et pour toute
ouais,
ta famille.
Ça roule.
Et puis je te dis écoute, à très bientôt et un très bel été.
Oui, bon été à toi aussi. À très bientôt.
Alors, nous continuons notre petit tour d'horizon et nous prenons des nouvelles d'Émilie. Émilie qui était mon invitée maman solo qui voulait un autre enfant de l'épisode 4. C'est parti. Coucou Émilie, comment ça va? Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Bonjour, moi c'est Émilie. J'ai 38 ans. Je travaille auprès d'enfants en situation de polyhandicap dans la région nantaise où je vis avec mes deux filles. Ambre qui a 19 ans, qui est née d'une grossesse entre guillemets classique, et Maxine qui a 3 ans et qui est née suite à une insémination avec donneur.
Alors merci pour ce petit rappel, sans pour autant refaire bien sûr ton épisode que j'encourage les auditeurs à aller écouter, donc l'épisode 4 du podcast, est-ce que tu pourrais nous rappeler en quelques mots les raisons de ton entrée en PMA ?
J'ai toujours souhaité avoir plusieurs enfants et j'ai pas pu me résoudre à ne plus avoir d'enfants parce que je ne trouvais pas le bon partenaire pour fonder cette famille, tant souhaitée. Voyant le temps qui passait, mon âge avec, du coup, je me suis dit pourquoi attendre plus ? Attendre qui ? Combien de temps ? Et surtout, attendre au risque qu'il soit trop tard. Et en fait, cette idée qu'il soit trop tard et que je ne puisse plus avoir d'enfant parce que j'ai laissé le temps passer m'a littéralement donné mal au ventre. Mon désir d'enfant était vraiment fort et réel et du coup, je me suis dit, allons-y, lance-toi dans un parcours de PMA en solo. Du coup, à l'étranger, évidemment, puisque c'est pas légal en France.
Ouais, donc un recours finalement peut-être un petit peu moins typique à la PMA en France, puisque donc comme tu le disais, la PMA en France n'est pas ouverte aux mamans solo ni aux couples homosexuels. Et je te remercie d'ailleurs d'avoir choisi le podcast pour venir raconter ton histoire. Je pense que c'est important, effectivement, de montrer en fait la réalité des choses, comment ça se passe. Comment est-ce que tu en es arrivé en fait à cette décision et puis comment ça s'est passé pour partir à l'étranger. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que finalement la participation à ce podcast t'a apporté ? Pourquoi est-ce que tu as décidé de venir partager ton histoire ?
Le fait d'avoir participé au podcast m'a permis tout simplement de parler de mon parcours dans un premier temps, mais aussi de parler de ce sujet qui est trop souvent tabou encore. en parler pour dire que ça existe, pour dire aux femmes célibataires dans cette démarche qu'elles sont pas toutes seules. En parlant de mon expérience, j'ai pu rencontrer une belle communauté de PEMET sur Instagram, échanger, partager avec elles. J'espère d'ailleurs pouvoir les aider, les soutenir pour celles qui sont actuellement en parcours. C'est d'ailleurs sans doute moi ce qui m'a manqué le plus pendant mon parcours, de pouvoir échanger comme ça. Et c'est ce qui m'a fait me sentir si seule, au-delà de mon célibat évidemment. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai depuis créé un blog où je parle de ce parcours, de mes grossesses, de choses un peu plus futiles aussi, mais qui m'aident dans mon quotidien, dans ma vie de maman solo. C'est un blog que je partage d'expériences, d'échanges, que j'aimerais sans tabou. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver le lien dans ma bio sur Insta.
Mais effectivement, c'est super cette idée de blog. J'y ai jeté un œil et je te remercie parce que ouais, effectivement, il est super intéressant. Donc sur ton parcours de maman solo, pour le devenir, ton cheminement aussi bien mental, je dirais, que physique, voilà, comment ça s'est placé, c'était vraiment super intéressant. Pour ceux qui veulent aller y jeter un œil, c'est solo maman qui déchire, maman qui déchire avec KI et déchire sans E à la fin, .wordpress.com. Je mettrai le lien, bien sûr, dans les notes du podcast. Et sinon, comme Émilie vous l'a dit, vous pouvez le retrouver sur sa bio Instagram. Et du coup, en fait, tu fais quand même un sacré boulot pour libérer la parole autour de toutes ces questions. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus ?
C'est vrai que la PMA, c'est un sujet très, très personnel. Et on se sent souvent seul dans ses parcours, mal compris. Et j'espère vraiment que les choses vont changer, mais pour ça, je pense qu'il faut qu'on en parle et qu'on fasse en sorte que ça soit plus un tabou, même si, évidemment, c'est difficile. Encore une fois, parce que personnel.
Tu as complètement raison, je suis complètement en phase avec ce que tu dis. Alors, on parle ici beaucoup des PEMET, et souvent, c'est vrai que les PEMET à qui on a donné la parole sont en couple, soit hétérosexuels, soit homosexuels, mais on parle finalement assez peu des mamans solo. Et j'aurais bien aimé savoir si tu avais un petit message un peu particulier à leur partager aujourd'hui.
Il m'est parfois arrivé d'avoir la réflexion, ah, tu as l'air fatiguée aujourd'hui. Bah oui, effectivement, Maxime m'a réveillée 4 fois cette nuit, donc je peux avoir l'air un petit peu fatiguée, ouais. Ah bah pourtant, c'est toi qui l'as choisi. Oui, tout comme toi, t'as choisi d'avoir tes enfants et donc, étant en couple, tu as plus le droit d'être fatiguée que moi qui suis célibataire. Bah non, les mamans solo, vous avez le droit, même si c'est par choix, d'être fatiguée et de dire que c'est parfois difficile, comme tout le monde.
Écoute, Émilie, t'as raison, le message est passé. Je trouve ça quand même dingue qu'on ait encore à préciser des choses comme ça au 21e siècle, mais si tu le dis, c'est que forcément, il y en a besoin. Alors merci, et bien entendu, je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais partager avec la communauté, ceux pour qui les parcours sont peut-être toujours en cours ou à l'arrêt ?
Je voudrais vous dire bravo à tous, que vous soyez actuellement en parcours ou vous soyez déjà passé par la PMA. Vivre cette étape qui est faite de traitements souvent lourds, de déceptions, de souffrances parfois, montre votre force.
Très bien. Écoute, Émilie, je te dis un grand merci. Merci pour ces mots, d'ailleurs, qui font du bien dans des moments qui ne sont pas toujours évidents et puis qui résonnent vraiment de sincérité. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, avant de se dire au revoir ?
Merci de m'avoir à nouveau donné la parole sur ce podcast qui a bien grandi depuis l'enregistrement de mon épisode.
Eh bien, écoute, avec un immense plaisir, Émilie, je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt. Et nous terminons ce petit tour de mes invités de la saison 1 pour aujourd'hui, bien entendu, avec Olivia en région parisienne, maman solo de Gabriel, qui avait donc fait son parcours avec sa compagne entre la Belgique et l'Espagne. C'est parti. Olivia, coucou Gabriel, comment allez-vous tous les deux ?
Salut ! On va bien, on est un peu fatigués mais on va bien.
Donc effectivement, tu n'as pas beaucoup dormi puisque Gabriel était plutôt fatigué cette nuit. Merci beaucoup d'accepter de revenir faire un tour sur le podcast. Donc on s'était parlé il y a plusieurs mois pour ton épisode où tu nous racontais justement ton parcours avec ta compagne de l'époque pour devenir maman. Tu peux nous raconter en quelques lignes juste les grandes étapes de votre parcours ?
On a fait plusieurs inséminations en Belgique qui n'ont pas marché et une FIV en Espagne qui nous a donné notre merveille.
Donc pour ceux qui n'avaient pas forcément écouté le premier épisode, vous n'aviez pas pu faire votre parcours en France puisque malheureusement donc la procréation médicalement assistée n'est pas autorisée en France pour les couples homosexuels, c'est ça ?
Exactement, c'est censé, enfin on espérait que ça passerait et là c'est toujours en discussion, puis ça a été reporté avec le Covid.
Bon, et donc bébé numéro 2, j'imagine que ce n'est pas d'actualité pour tout de suite si tu ne dors toujours pas la nuit.
Si.
Aha.
Non, alors pas pour tout de suite, mais si j'aimerais avoir des enfants qui soient assez
rapprochés.
Et puis, enfin, même si je suis épuisée, hein, je dirais pas le contraire. Le nombre de fois que j'ai pleuré de fatigue, je les compte plus. Mais à côté de ça, c'est un bonheur. C'est un petit bout d'amour. Après, ce sera une démarche différente puisque ce sera une démarche en solo, mais.
Donc, tu t'es séparée de ta compagne depuis la fois où nous étions parlé, donc il y a quelques mois. Oui. Effectivement, ça doit être un sacré parcours de faire tout ça toute seule. D'un point de vue filiation, on en a parlé dans quelques autres épisodes, je pense notamment avec Constance. Il y a une adoption qui se fait chez le deuxième parent qui n'a pas porté le bébé. Vous aviez fait une adoption, je me souviens plus, avec ta compagne.
Non, parce que déjà il faut être marié, on ne l'était pas encore. Mm-hmm. Et en plus de ça, je crois qu'après la naissance, il faut attendre 6 mois et nous on était déjà séparés. Et comme tu dois prouver que tu vis encore ensemble, que tu élèves un enfant ensemble, on se débrouille entre nous. Ce qui est très compliqué quand tu te sépares, puisque bien évidemment, il y a beaucoup de peine, de rancœur, de colère, et il faut essayer de passer outre et de faire passer ton enfant avant. Mais c'est vrai que c'est quand même plus simple si tu as quelqu'un pour te dire, voilà, vous allez faire comme ça, la filiation est là, on décide les droits de visite avec un juge. Enfin, c'est quand même plus facile que quand tu le fais entre nous, et c'est vrai que c'est dur parce qu'il y en a toujours une. Enfin, je sais que si je prends une décision qui lui plaît pas, vu que je suis la seule mère officielle, bah, elle me dira que j'abuse de mon pouvoir. Elle se sent en danger. Moi, c'est pas une décision que j'ai envie de prendre. J'ai pas envie d'avoir à. Là, c'est compliqué. On devrait pas se retrouver dans une situation comme ça.
Je comprends.
Non, le scénario idéal, ce serait qu'elle puisse aller à la mairie comme elle l'a fait pour déclarer sa naissance et qu'elle puisse être sur l'acte de naissance en tant que deuxième maman.
Ouais, non, bien sûr. Tu me parlais aussi de la pression de l'entourage qui te dit que voilà, puisque la rupture a eu lieu très tôt dans la vie de Gabriel, pourquoi finalement est-ce que tu laisserais ta compagne être la seconde maman? Est-ce que justement tu as eu toi des remarques des proches que t'aurais aimé qu'ils puissent te soutenir de manière un peu différente?
Oui, de la part de beaucoup de monde. Enfin, non, je suis très soutenue. Mes copains, ma famille m'entourent énormément. C'est vrai que je suis jamais seule si j'ai besoin de pas être seule. J'aurai toujours quelqu'un à appeler ou à aller voir. Et ça, c'est super. Mm-hmm. Mais c'est vrai que oui, j'ai eu droit à des « non, faut arrêter, il a qu'une seule maman » ou même « non, il a un papa ». Non, en fait, il a un géniteur. Oui, bien sûr, évidemment, deux mamans ensemble, physiquement, ne peuvent pas faire un enfant. Mm-hmm. Mais je veux dire, il a pas participé au projet parental, donc non. Et le problème, c'est que si moi, je lui dis « tu n'as pas de papa et tu as deux mamans » et derrière, d'autres lui disent « bah non, t'as qu'une maman et un papa », moi, j'ai un peu peur de ce que ça va lui faire à lui. Donc, et comme j'ai pas un caractère très fort, c'est vrai qu'en général, je laisse couler, mais là, je vais être obligée de taper du poing sur la table. Et...
C'est quelque chose que t'appréhendes un peu?
Ah oui, beaucoup. Mais c'est pas mon genre. C'est compliqué, ça, pour moi.
J'aimerais revenir, si ça t'embête pas, juste quelques instants sur la deuxième maman de Gabriel. Tu me disais dans ton premier épisode, donc rétrospectivement, tu aurais essayé peut-être de prendre soin différemment de ton couple pendant le parcours de la PMA, puisque ce parcours avait été particulièrement éprouvant. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment maintenant que t'as du recul sur tout ça?
Je pense que avant de lancer le projet, j'aurais fait une thérapie de couple. Peut-être juste une séance, et si on nous avait dit non, votre couple va bien, bon, ok. Et peut-être qu'on aurait réglé des choses qui n'étaient pas réglées entre nous et qui, du coup, quand un enfant arrive, quand t'as la fatigue, forcément, tout sort plus fort. Pendant le parcours de PMA, j'aurais fait plus attention à elle et à notre couple. C'est vrai que je voulais un enfant depuis tellement longtemps et c'était tellement important pour moi que je pense avoir mis un peu de côté ses besoins et j'ai pas entretenu voilà, c'est vrai que tout tournait autour de tomber enceinte, autour des tests négatifs, autour de l'attente des allers-retours, et du coup ça, c'est mes gros regrets, mais après je peux pas revenir en arrière, donc aujourd'hui il faut qu'on fasse au mieux dans cette situation,
bien sûr,
pour que lui n'en ait pas de cicatrice, enfin que pour lui ce soit normal et très bien et qu'il soit heureux. Je dis pas que c'est facile tous les jours, je dis pas qu'on y arrive forcément tout le temps, mais en tout cas, on fait notre maximum pour que lui, plus tard, se dise « Non, non, mais ma famille est super, tout va bien.
Bah, écoute, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Avec tout le recul du coup que tu as, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement peut-être à un couple qui bat peut-être de l'aile suite à un parcours de PMA. Comme tu le dis, c'est vrai que les parcours deviennent vite obsessionnels, surtout chez la femme qui suit les traitements, puisque bah, il y a l'aspect aussi physiologique en plus du psychologique, et que voilà, c'est pas toujours évident en fait de continuer à se concentrer sur un autre être qui n'est pas en nous. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un conseil à ces couples ou à ces femmes qui vivent ces parcours, quelque chose que tu aurais peut-être toi aimé savoir, que tu pourrais donc donner à nos auditeurs?
Déjà, vraiment, aller faire une thérapie de couple juste pour être sûr que tout va bien et qu'il n'y a pas de gros problèmes sous-jacents qui peuvent ressortir. Se poser, peut-être faire une pause un mois. Je sais que moi, je me dis, c'est facile à dire maintenant, mais quand j'y étais, l'idée de sauter un mois, c'était horrible. Mais peut-être que voilà, si on voit que ça prend trop de place, se dire, ok, on fait un break. Au lieu de partir en Belgique, on part en week-end ou on part en je sais pas et on n'en parle pas, se dire, ou même se dire, je sais pas, dans la semaine, dans le mois, dédié des jours, on se dit, on parle pas du projet, on parle pas de ça, on parle d'autre chose, on fait autre chose, on sort, on voit du monde, ou on reste à deux si on a envie de profiter, mais voilà, sans en parler forcément, réfléchir, être sûr de ce qu'on veut aussi, parce que nous, ça a été aussi beaucoup ça, c'est-à-dire que c'était peut-être plus mon projet, et qu'elle était peut-être pas spécialement prête, et du coup, elle l'a fait peut-être plus pour moi. Donc réfléchir, être sûr que vraiment les deux sont sur la même longueur d'onde pour ce projet-là. Après, c'est à chacun de trouver, c'est à chacun de savoir, parce que si les deux mamans sont autant impliquées, bah, ce sera pas un problème de penser beaucoup à ça. Certaines femmes auront besoin de plus de preuves d'affection ou d'être rassurées. Je sais que pour mon ex, elle avait aussi l'impression que je l'aimais plus vraiment, que c'était juste mon enfant. Enfin, que j'aimais plus que mon fils, que je pensais plus qu'à lui. Il y a plein de choses comme ça. Mais c'est compliqué. C'est facile à dire avec le recul, mais sur le coup.
Il n'y a pas deux histoires exactement pareilles. Hein. On peut pas comparer tout exactement. On peut pas faire du copier-coller, quoi. Très bien. Écoute, Olivia, à part du sommeil, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Alors, tu disais que tu aimerais te lancer dans le parcours d'un deuxième enfant. C'est pas pour tout de suite. Où est-ce que tu en es aujourd'hui?
Aujourd'hui, il me reste des embryons. Donc déjà, c'est un parcours un peu plus facile. J'attends un peu parce que pour l'instant, je ne sais même pas si je vais pouvoir garder l'appart où on était. Et donc voilà, j'attends que les choses soient posées, que j'ai un endroit à moi, de savoir si financièrement c'est possible et tout. Mais j'espère que oui, un jour, j'aurai plusieurs enfants. Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter d'autre? Peut-être de rencontrer quelqu'un un jour.
Très bien. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Est-ce que tu as un dernier mot à partager, je sais pas, avec les auditeurs du podcast avant que je te laisse tranquille aller essayer peut-être de dormir?
Je souhaite à toutes celles qui rêvent de devenir maman de l'être. C'est vrai que c'est bouleversant, c'est fatigant, mais c'est aussi assez magique.
Très bien. Bah, écoute, effectivement, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Merci beaucoup, Olivia.
Je t'en prie.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Donc pour rappel, cet été, je vous propose différents hors-séries sur les acteurs de la PMA, mais aussi avec toutes mes anciennes invitées du podcast de la saison 1 pour pouvoir prendre un petit peu de leurs nouvelles et voir où elles en sont. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté, rejoignez-nous sur Instagram @alorscestpourbientôtpodcast et pour témoigner, direction le site internet alorscestpourbientôtpodcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.